EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et des maturités spirituelles. Cette semaine, la raison de mûrir est un peu commune. On se disait qu'on prendrait les voies de l'enseignement, de la prière pour mûrir. Mais cette semaine, nous avons pris la voie, le chemin de la souffrance. On s'est dit, il faut qu'on en parle. Elle est là, elle n'est pas moindre. On a commencé par voir comment on devait regarder ça en tant que chrétien, quel était le sens de la souffrance en tant que chrétien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement de ce fait, si oui ou non, un chrétien pourrait ou devrait, peut-il souffrir? Un chrétien peut-il souffrir? Est-ce que vraiment, moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, comment je peux passer par ces souffrances? La dernière fois, on a vu comment faire cohabiter ces deux idées, l'amour de Dieu et la souffrance. Mais maintenant, ces deux réalités, chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, je crains Dieu, je jeûne, pourquoi je peux passer encore par la souffrance? C'est pas incompatible, ça? Alors, let's teach, grandissons ensemble. Je voudrais, frères et sœurs, qu'en partageant avec vous aujourd'hui, vous puissiez voir la souffrance autrement. Qu'elle ne puisse pas, dès qu'on dit souffrance, vous puissiez tout de suite penser à un manque de foi. En disant, ah, celui-ci, il souffre parce qu'il manque la foi. C'est pas un chrétien solide. S'il souffre, c'est qu'il y a quelque chose dans sa relation avec Dieu. Un peu comme les amis de Job le disaient. Et je sais aussi que là dehors, mes amis, il y a plusieurs théologies ou plusieurs points de vue sur la souffrance d'un chrétien. Certains considèrent que lorsqu'un chrétien souffre, il n'a pas été suffisamment endurant dans sa foi. En réalité, il n'a pas été si prophétique, il n'a pas vu venir. D'autres disent, c'est le diable. L'origine de tout mal, c'est le diable. C'est que ça veut dire que s'il souffre, il n'a pas été délivré dans un domaine, il a été distrait. D'autres encore disent, s'il souffre, c'est normal. Hein? On est tous là, on est censé souffrir. Il n'a qu'à souffrir. On est chrétien, Jésus nous a promis de beaucoup souffrir. Souffrir, c'est ce qu'on va faire. J'aimerais qu'on regarde la souffrance non pas comme un échec de notre foi. Surtout pas comme un quotidien, notre lot. Qu'on doit juste dire, allez, on est chrétien, ça signifie qu'il faut souffrir. Pour d'autres, même souffrir devient marque de la foi chrétienne authentique. Je ne veux pas qu'on fasse ça. Je veux plutôt qu'on regarde la souffrance comme un élément pédagogique. Avant, autre chose. Je tiens à ce que pendant cette session aussi, nous puissions regarder la souffrance d'une certaine manière. Qui est à la base de la souffrance? Retenez ceci parce que ça va vous aider durant toute la semaine. Dans mon enseignement, j'essaye de montrer que là, le premier responsable, le responsable fondamental des conditions de souffrance, c'est le choix. Et le choix de l'homme. Dans sa liberté avec Dieu, pendant leur relation d'amour, l'être humain a fait le choix, malgré les multiples recommandations de Dieu, de choisir quelque chose dont les conséquences sont pénibles. La souffrance autour de l'homme a souvent été, en grande partie, principalement, l'objet de son choix. Mais je suis aussi en train de nuancer en démontrant que Dieu use de la souffrance comme une pédagogie. Laisse venir une souffrance ou met l'être humain dans des conditionnements que l'homme lui appelle souffrance. Ce n'est pas la finalité, mais c'est une méthode. L'homme ressent une souffrance, mais ce n'est pas la finalité. Du coup, pour Dieu, ce n'est pas pour le faire souffrir, mais c'est cette pression-là que l'homme ressent et l'appelle souffrance était une pédagogie. Dieu, de fois même, ne met pas en place ça, mais de fois, il glisse, je vais dire le terme comme ça, à travers même l'erreur que l'homme a commis, les conséquences qui gênent à cause de l'erreur de l'homme, pour lui enseigner. Mais je ne suis pas non plus inconscient que certaines de nos souffrances ne viennent ni de nos choix, ni de Dieu, mais simplement l'ennemi a vu et s'est dit « Yo, il a commis un mauvais choix, je vais en profiter ». Il profite de là pour faire plus mal ou de fois, il initie lui-même un programme macabre et machiavélique pour détruire nos vies et on en souffre. En ayant vu ce tableau en 360 degrés, On se pose la question, est-ce que le fait d'avoir donné sa vie à Jésus et d'être devenu chrétien, être dans la prière, être sensible, être à l'écoute de Dieu, conduit par l'Esprit, ça ne devait pas nous faire, un, déjà, éviter la souffrance? Pour que, si elle vient de l'ennemi, donc on va l'anticiper. Si elle vient de Dieu, pourquoi elle en a besoin si on a compris la leçon autrement? Donc c'est là que, au milieu de ces trois réalités, le choix de l'homme, la pédagogie de Dieu, ainsi que les attaques de l'ennemi, vous devez vous rendre compte que l'humanité, la nature de l'homme ayant accepté le péché, l'a conditionné au fait que la souffrance, devient un chemin obligé pour extirper de lui le bien. L'homme est devenu comme un fruit qu'il faut presser si on veut en recevoir le jus. La nature de l'homme demande qu'il passe par des conditions qui le compresse. J'insiste sur ce mot-là parce que l'homme ressent la souffrance, mais le but ne peut pas être la souffrance. La finalité, ce n'était pas la souffrance, mais c'est la méthode pour en sortir quelque chose de bien. Tu ne peux pas opérer l'être humain, malgré l'anesthésie et tout ça, sans que la douleur puisse s'en suivre. On a fait du bien à l'homme, mais ça lui a fait mal. L'homme appelle ça que ça lui a fait mal, il en souffre. Mais on a en réalité fait du bien. Dernière chose avant que je puisse commencer à étaler mes points du jour, j'attiens à ce que vous puissiez aussi savoir, parce que là d'ailleurs c'est fort, que quand je parle de souffrance ici, je ne parle pas du fait que vous puissiez manquer de l'argent à un moment. Non, parce que de nos jours, souffrance signifie « Ah, je souffre quand même, j'ai pas d'argent, j'ai pas de moyens, personne ne m'aide. » Il y a plusieurs types de souffrance. Et le fait de manquer de l'argent, c'est pas un manque de foi, c'est pas non plus que tu as fait des mauvais choix nécessairement. Je n'essaie pas de te culpabiliser en disant si tu passes par un moment de manque ou quoi que ce soit, c'est certainement ta faute. T'as fait un mauvais choix. Comment t'as pu choisir de naître dans cette famille? On n'a pas choisi ces choses-là. Et le fait d'être dans le manque à un moment est un processus naturel. Lorsqu'un arbre n'a pas encore donné ses fruits, vous dites que l'arbre souffre? Non, l'arbre se prépare. Est dans un processus final qui va donner le fruit. Mais pendant que l'hiver est là, l'arbre se sèche, tu te dis l'arbre souffre, il n'est plus vert, il subit quelque chose. Mais en fait, l'arbre est en train de passer dans le processus de la manifestation de son fruit. Et donc, le petit moment où on manque une chose ou une autre, on passe par une saison, cela ne signifie pas qu'on n'est pas chrétien. Ça fait partie du processus naturel de Dieu de faire grandir les choses. Dieu aime le processus. Et dans le processus, il y a un moment où on en a, il y a un moment où on n'en a pas. Chaque manque n'est pas toujours la conséquence des mauvais choix. C'est peut-être juste l'étape du processus vers le moment où l'abondance ou la visitation divine va se manifester. Quiconque sème doit apprendre à attendre entre semailles et moissons. Cela étant dit, revenons sur le fait qu'on trouve bizarre que chrétien puisse souffrir. Qu'est-ce que je peux affirmer pour qu'on puisse clarifier ça? Premièrement, écoutez bien ça. Oui, si la question c'est « un chrétien peut-il souffrir ?» La réponse est « oui, Jésus a prévu. » Ah bon? Ah oui. Jésus a prévu qu'on va avoir des souffrances. Je ne parle pas des manques ici, je ne parle pas de la pauvreté. Mais Jésus a prévu que nous devons passer par des souffrances. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus n'a pas dit, vous allez avoir une option de vivre une foi chrétienne sans tribulation. Il suffit juste de vous conformer, on vous fera rien. Non, Jésus a dit, écoutez, voici le plan. Je vous préviens déjà pour que vous ayez la paix en moi. Pour que vous soyez calme, vous vous rassurez que bon, voilà, dans tous les cas, il l'avait dit. Une chose devait nous rassurer, que notre souffrance était prévue. Je ne parle pas de ton manque d'argent, je ne parle pas juste de la douleur qu'il y a dans ton corps ou de la souffrance de ta maladie, je parle du fait qu'en étant en la foi en Jésus, ni le monde, ni le diable ne te laissera en paix. Tu en ressentiras le poids et c'était prévu. C'est bien de savoir que c'est prévu. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, et le commandant dit, mesdames et messieurs, nous allons passer par quelques turbulences, nous vous prions de, 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 des cérébraux sentiers. J'ai jamais compris pourquoi les micros est toujours, ils crachent toujours. J'ai jamais compris cette affaire. Mais c'est un truc dans ce genre-là. Des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Mais on comprend. Et on voit les signaux qui dit cérébraux sentiers. C'est bien quand le commandant l'a dit avant. Quand ça commence à bouger, on se dit, il a vu, il n'est pas inconscient, rien ne l'a subi, rien ne l'a surpris, il est au contrôle. Mais quand subitement vous avez un trou d'air, oh, tout le monde crie le nom de sa croyance, Jésus, chacun crie maman. Et vous savez, il y a des gens qui croient à leur maman beaucoup. Et tu dis, ah maman, je ne sais pas pourquoi les gens crient maman, ils crient pas papa. On dirait que les mères sont d'un meilleur soutien. Et ça ne fait une fois, deux fois, c'est après qu'on entend le commandant dire, mesdames et messieurs, nous allons passer. Vous avez dit quoi? Nous allons passer par des zones de turbulence. On est en plein dedans là. Tu savais même pas ce qui se passe. C'est pas rassurant quand il parle après. Mais s'il avait dit, on se dit, ça fait bizarre, mais c'est prévu. Frère, ça fait bizarre de voir que parce que tu as décidé de craindre le Seigneur, que dans cette maison, tu ressens que on commence à te traiter autrement. On t'a poussé à l'impudicité, ma sœur, sans le dire ouvertement. Mais puisque tu crains le Seigneur, tu sens que on sait même tu t'es donné à manger, on s'est dit, ah ben, elles ont amené de l'argent, celui qui n'a pas amené de l'argent ne mange pas. Tu sens qu'on te pousse au mal et tu as dit non et tu en subis la conséquence. Je m'arrête de te dire que cette zone des turbulences, le commandant en avait parlé. Le commandant a annoncé des milliers d'années avant que ça va bouger. Et il a dit, prenez courage. Il a vaincu le monde. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez les apôtres? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut léguer les mieux comme héritage à ces autres disciples? Voilà ce que fait cet homme de Dieu. Il fortifie la foi de ses disciples et le prévient que nous devons passer par ce genre de choses. Si ta foi t'amène des douleurs, si le fait de décider Christ de suivre, de vivre la vie selon la parole de Dieu, ça fait que tu subis, tu n'as même pas de quoi prendre soin de toi-même parce que tu as dit non à quelque chose. Tu n'as même pas où dormir d'ailleurs deux fois parce que tu as dit non à quelque chose. Sache que le commandant avait prévu que nous aurons ces zones de turbulence. Mais tu vas finir par atterrir sans un souffle. Le chrétien peut-il souffrir? Oui, Jésus l'avait prévu. Le chrétien peut-il souffrir? Deux. Persécution pour Christ. Je vais être maintenant plus précis. Il y a cette souffrance qui est les résultats de la persécution pour Christ. C'est plus ou moins ce de quoi je vais parler. J'ai parlé tout à l'heure. Je voulais d'abord vous démontrer que Jésus l'a su avant. Mais là, j'aimerais vous préciser cette forme de souffrance. Subir à cause de notre foi. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent même pas évangéliser. Je ne parle pas du fait que je suis allé dans un pays parce que j'ai commencé à parler de Jésus, on m'a tabassé. Non, juste le vécu normal du quotidien. Je fais des choix de manger, boire, me tenir à un endroit, parler, faire mes commentaires sur Facebook. Si je tente de le faire avec une ligne de conduite de piété, comme un chrétien dans le fait, je ressentirai de la souffrance psychologique, des menaces. Je sentirai que je dérange. Et on me le fera sentir psychologiquement, physiquement même, émotionnellement et même spirituellement. Le fait d'avoir fait choix de vie, d'être disciple de Christ, nous coûtera une oppression. On ne viendra pas te dire tout le jour ouvertement, c'est parce que tu es chrétien que je t'ai fait ça. Non. De fond, on te dira, pour qui tu te prends? Juste parce que tu te dis, on n'est pas obligé de le faire comme ça, moi je vais le faire comme je le crois. Je te dis, bah, c'est une fête pour vous, ok, vous fêtez la peur, super. Moi, je pense que je vais fêter la résurrection de la croix. Tu dis, ah, mais pour qui tu te prends? Pourquoi vous voulez vous? Pour qui vous vous prenez? Vous êtes les chrétiens. Est-ce que finalement, on a un choix ou pas? Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est pas rassurant. L'histoire de la persécution, de la souffrance n'a pas commencé maintenant. Ça n'a même pas commencé à cause de Jésus. Ça n'a même pas commencé à cause de la foi chrétienne. Non, ça a commencé depuis toute forme de prise de position à la piété selon Dieu. Chaque fois que l'être humain a voulu vivre selon la volonté de Dieu, même avant Jésus, il a été persécuté. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit, heureux serez-vous parce que lorsqu'on vous aura, on vous aura fait toutes sortes de choses à cause de moi. Il dit, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est-à-dire que la persécution n'a pas commencé avec l'évangile de Jésus. Elle a commencé depuis même du temps des prophètes. Chaque fois qu'un homme est venu montrer une vie de droiture, être l'exemple selon la parole de Dieu, enseigner cela aux autres, les hommes ont toujours voulu le faire souffrir et le faire sentir que pour qui tu te prends, pourquoi tu veux être différent. Alors je t'en supplie, prends courage. Le monde ne nous fait pas souffrir parce qu'on est mauvais. Le monde nous fait souffrir parce qu'on est un miroir. À force d'être nous, ils voient combien mauvais eux, ils sont. Et ils se disent, nous ne pouvons pas être aussi nombreux à être mauvais. C'est que c'est toi qui es mauvais. Je ne suis pas mauvais. Je suis juste en train de suivre Christ. Et les hommes détestent regarder leur déformation dans le visage, dans le miroir. Ils se disent, ce n'est pas moi qui suis déformé, c'est le miroir qui a un problème. Et ils essaient de casser le miroir. Les miroirs ne te montrent que ce que tu es. Nous, on t'entend d'être comme Jésus. Pour eux, ils le disent deux fois. Pour qui tu te prends? Tu veux dire que nous, on est mauvais? Je n'ai pas dit, je tente juste de suivre ce que Jésus a dit. Si tu ressens une culpabilité en toi, viens à Jésus avec simplicité. Mon frère, ma sœur, sache-le, que cette personne peut avoir le même sang que toi. Ça ne l'empêche pas de te regarder comme ça. Vous pouvez même être marié. Ça ne l'empêche pas quand il voit ce miroir en toi de la nature d'un enfant de Dieu. Ça ne l'empêche pas de réagir à ça, de te mettre dans des conditions pour que tu saches que c'est toi qui n'es pas bien. Ça peut être dans un cadre professionnel. Même les gens autour de toi peuvent se faire appeler chrétiens. Mais la radicalité de ta foi devient comme une condamnation sur eux et te font subir de persécutions. La persécution, c'est quand c'est bien clair que ce combat est lié à ta foi et à ta piété. Le fait que tu as décidé d'avoir un comportement qui est fidèle à ta croyance peut déranger les gens autour de toi et ils te font ressentir que tu n'es pas aussi différent que tu le penses. Mais j'aimerais te dire, prends courage. Le capitaine avait prévu cette turbulence. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Non seulement qu'il a prévu, il sait que cette persécution existe. Troisièmement, il n'y a pas que le fait que Jésus a prévu cela. Il y a aussi les épreuves qui produisent la maturité. Il n'y a pas que le fait que Jésus a su, et il nous l'a dit avant, qu'on aura des turbulences, des moments difficiles. Il n'y a pas aussi simplement le fait que nous soyons en train de subir des choses à cause de notre foi. Mais sachez qu'il existe aussi une épreuve qui produit la maturité. Je vous l'ai dit au début, Dieu utilise des fois des circonstances où on est pressé, où on souffre, mais justement pour nous rendre nous meilleurs. N'est-ce pas qu'on frappe sur son fer quand on veut lui donner une meilleure forme? Le forgeron frappe, tu te dis, il fait du mal à ce fer. Non, il lui fait du bien. Il le chauffe au maximum et le redresse. On entend des coups, pam, pam, oh, le fer souffre. Non, le fer s'améliore. Et dans la maison du potier, dans la maison du grand forgeron, Dieu de fois frappe comme ça. Il nous met dans une épreuve, non pas dans le but de nous détruire, dans le but de nous transformer. Les processus de notre transformation passent par un moment où on a l'impression de mourir. Ouais, de mourir. Du reste, dans la culture hébraïque, dans la langue même de l'hébreu, l'idée de mourir n'a jamais été présentée comme une extinction de vie. La mort, d'après la pensée biblique, ça ne veut pas dire finir. La mort, ce n'est pas le point d'arrêt. La mort, c'est un lieu de passage, de passation. Mourir est toujours une façon d'arrêter une vie pour commencer une autre. Mourir est toujours une façon de mourir d'une chose pour naître d'une autre. Et en fait, j'aime bien cet auteur qui dit que le changement est une succession de petites morts. J'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que, en fait, chaque fois que nous changeons, nous transformons, en fait, nous mourons petit à petit. Et j'aime cette expression biblique qui dit « mourir en nous-mêmes ». Et c'est ça que nous appelons souffrance, nous. Cette sensation de mourir en soi-même. Je dis « non, mais je déteste ça ». En fait, le nouveau toi ne le ressentira pas comme ça. Mais l'ancien toi, pendant ce processus de mourir en toi pour devenir une autre personne, il ressent ça comme une mort, comme une souffrance. Mais demain, quand tu auras mûri, tu te diras, tu regarderas quelqu'un d'autre en souffrir et tu en ris. Tu dis, ah, j'étais comme ça. Alors, je t'en supplie. Ne regarde pas chaque fois ta souffrance comme quelque chose qui vient te tourmenter. Il y a des épreuves pour la maturité. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produira la patience. Mais il faut que la patience accomplisse patiemment son œuvre, pardonnez-moi, parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Oh, pour devenir parfait et accompli sans faillir en rien, il y a un chirurgien qui doit travailler. C'est pas juste quelqu'un qui doit donner l'anesthésie et tout. Il y a un chirurgien, il doit nous couper, il doit nous déchirer. Comment il s'appelle le chirurgien? Les épreuves. Qui vont faire quoi? La patience qui va accomplir parfaitement son œuvre. Jacques Pitot est en train de parler aux frères, il appelle ça épreuve maintenant. Qu'on appellerait juste une souffrance, hein, mais il appelle ça épreuve. Il dit, regardez ça comme des leçons, des pédagogies divines pour vous rendre mature. Celui qui sort d'une épreuve qu'il a fait avec Dieu, d'une souffrance qu'il a passée en écoutant Dieu, il sort de là mûr. Pasteur, moi je ne veux pas mûrir, pasteur. Moi je veux juste que ça s'arrête. Si tu ne veux pas mûrir, c'est que tu ne veux pas que Jésus revienne. Parce que Jésus doit revenir prendre une épouse qui a grandi. L'une des raisons de notre attente, c'est la maturité de l'Église. Le perfectionnement de saints. Jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état de la stature parfaite de Jésus. Toi, grandir, c'est important. Tu veux précipiter le retour de Christ? Regarde tes souffrances dans l'angle de Dieu comme une épreuve pour te rendre mature. Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouh! Ce mélange incroyable de la part de Paul ici. Il dit, nous nous glorifions même dans nos afflictions. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes fiers quand nous passons par des moments où on subit de la douleur et des difficultés. À cause de notre foi, à cause de notre adhésion à la foi chrétienne, il y a de l'opposition et nous, on est contents. On est contents qu'on s'oppose à nous. Pourquoi? Parce qu'après, ça nous donne d'être persévérants. Et la persévérance travaille, nous donne de la victoire dans nos épreuves. Et cette victoire fait naître en nous quelque chose qu'on appelle de l'espérance, une attente infaillible de dire, il va revenir. Frère, c'est lui qui croit au retour de Christ. Regarde ses épreuves comme une leçon, comme une école. Si je crois que Jésus revient bientôt, je vois les souffrances par lesquelles je passe comme une façon de m'enseigner à la préparation de son retour, de bâtir en moi un caractère qui va attirer son retour. Quatrièmement, n'oubliez pas que je vous parle de chrétiens et souffrances. Comment ça se mélange ces deux réalités-là? Quatrième vérité, souffrance, je vous fais un peu de mathématiques et d'équations ici, souffrance différent de punition automatique. Regardez cette inéquation, ou je vais appeler ça une équation de but, mais en fait c'est d'inéquation parce que le signe égal est placé en différence. Je vais pas vous embrouiller avec les mathématiques. Mais souffrance ne signifie pas directement punition. Non, c'est parce que je vous enseigne ici. Quand quelqu'un souffre, ça signifie pas que Dieu l'a puni nécessairement. Non, pas du tout. Quand quelqu'un souffre, ça ne veut pas dire qu'il y a la colère de Dieu sur lui parce qu'il a fait un mauvais choix et Dieu veut le faire souffrir en réalité. N'oubliez pas, je vous dis que souvent Dieu utilise ce que nous appelons souffrance comme un conditionnement pour sortir le meilleur de nous. C'est nous qui appelons ça souffrance. Mais le but, ce n'est pas une souffrance. Ça presse pour que ça puisse décompresser après. Souffrance ne signifie pas punition. Derrière chaque personne qui souffre, il n'y a pas un Dieu qui s'est fâché. Derrière chaque chrétien qui passe par un moment difficile, il n'y a pas une malédiction divine. Derrière un chrétien qui a passé une semaine, deux semaines, deux ans, trois ans même, il n'y a pas toujours un Dieu derrière qui dit, ah voilà, tu le sens maintenant. Je t'avais dit d'arrêter, tu n'as pas voulu, tu sens. Non, ça c'est, c'est pas le Dieu de la Bible. Derrière chaque souffrance signifie pas, c'est un chrétien distrait qui n'a pas une vie de prière. Non, pas du tout. Des fois, c'est peut-être juste une pédagogie divine. Des fois, Dieu peut avoir vu la souffrance des choix de quelqu'un et s'est dit, on va y travailler ensemble. Job 1:1, la Bible dit, il y avait dans les pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Regardez comment la Bible décrit un homme qui, dont le livre est synonyme de souffrance et de galère. Tout le monde dit, ah, vraiment, je suis devenu un Job. Mais la Bible commence son histoire en montrant son intégrité. En montrant qu'il est irréprochable, il ne devrait pas être puni. Mais vous savez quoi la conséquence? Parce que Dieu va voir le diable et lui dit, écoute, est-ce que tu as vu Job? Oh là, Job, c'est incroyable. Satan, est-ce que tu as vu Job? Et Satan dit, ah, tu dis tout ça, tu l'as déjà béni, c'est normal. Dieu dit non, son intégrité et sa consécration n'a rien à voir avec les avoirs. Tiens, tu peux éprouver ses avoirs et tu verras que son cœur est au même endroit. Quand quelqu'un souffre, ça ne signifie pas que Dieu l'a puni. Et j'aime ce texte. Quand vous lisez ce livre, c'est juste incroyable. Les livres de Job, lisez-les, il est intéressant. Le diable frappe Job de manière si stratégique que ça ne peut pas lui faire penser à une attaque diabolique. Ça fait le diable peut faire ça. Il te frappe au point que tu ne peux te dire qu'il n'y a que Dieu qui m'a abandonné. Dans les frappes, les rafales des frappes du diable, il les a organisées de sorte qu'on ressente une malédiction. On a l'impression que c'est Dieu qui me fait souffrir. Or, toutes ces frappes étaient divines, étaient plutôt sataniques. Le diable attaque là, il fait tomber tout ce qui était des signes, des richesses, des preuves que Dieu est avec Job. Et il les fait tomber simultanément. Si bien que la femme de Job lui dit, écoute, maudit Dieu et meurt, parce qu'on peut pas imaginer que quelqu'un d'autre soit à la cause de ça. Qui a frappé? C'est Satan. Même si, à la base, c'est Dieu qui a permis. Alors le diable se dit, puisque j'ai reçu permission de Dieu, je vais copier sa façon de punir, au point que Job ne peut pas. Parce que n'oubliez pas, le but du Satan, c'est que Job doit se détourner contre Dieu. Donc en le frappant, ça doit donner l'impression que c'est Dieu. Est-il possible que maintenant, tu vis quelque chose que tu as l'impression que c'est Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir, il ne te punit pas. Tous les jours, tu te culpabilises. Tout cela, c'est à cause du péché que j'avais fait. C'est parce que j'avais commis l'impudicité que voilà, j'ai... Oh, il est possible que tu as logé un diable parce que tu penses que c'est Dieu qui lui permet de faire ça. Non, arrête. Il est possible que tu es en train de souffrir de quelque chose parce que tu es en train de tellement lier ça à un mal que tu as fait hier. Sois-en libéré aujourd'hui au nom de Jésus et ne laisse plus l'ennemi se loger chez toi là où tu as reçu pardon. Déloge-le de chez toi, ce n'est pas Dieu. Souffrance n'est pas égale à punition divine. Jean chapitre 9, verset 3. Jean répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le temps me manquerait pour bien vous expliquer ce contexte. Mais là, on voit très bien une condition où quelqu'un souffre. Et on dit, non, ce n'est pas sa faute ni ses parents. À travers lui, Dieu va faire éclater sa gloire. Ces cas-là existent. Ça ne signifie pas que Dieu l'a puni. Ça signifie que Dieu va l'utiliser, par contre. En terminant, laissez-moi vous dire ce qui devrait constituer la cinquième chose. C'est qu'il faut mélanger ces choses avec beaucoup d'équilibre. Foi et responsabilité. Ces deux choses doivent marcher main dans la main. Sachez que nous faisons confiance à Dieu pour ce qui nous arrive. Sachez aussi que nous sommes responsables de certains de nos choix et des choses par lesquelles nous passons. Un bon texte serait celui de Jacques 5, 14 à 15, 14 à 16 qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui ? Et loin d'huile, au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera s'il a commis des péchés. » Il le sera pardonné. On voit quelqu'un malade, mais Dieu va le pardonner, mais les hommes doivent aussi prendre la responsabilité. Dieu va le guérir, mais il doit prendre la responsabilité de demander pardon et d'en être guéri. Je ne sais pas par quoi vous passez. Faites confiance à Dieu et prenez vos responsabilités. Là où c'est votre faute, allez lui dire, j'ai coupé cette oreille. Et ne laissez pas le diable vous donner une sentence à la place de Dieu. Si ça a été clair, c'est censé vous amener réconfort, vous fortifier et vous amener détermination à ne pas accepter ce que Dieu ne nous a pas donné. Moi, je vous dis à demain. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.